Bonjour et bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire de cette édition, les femmes seraient sous-représentées dans l'industrie musicale de la Nouvelle-Écosse. La Fédération culturelle acadienne de cette province lance une résidence de création pour renverser la vapeur.
Vu qu'il n'y en a pas, on ne se voit pas. On ne se voit pas, on ne pense pas que c'est possible. Je pense que la communauté francophone ici est beaucoup plus dispersée si on veut aller présenter ou faire des spectacles.
On célèbre à Edmonton, en Alberta, la culture et la gastronomie angolaise via l'événement Pangea.
Oh, j'étais tellement épaté parce que je dirais que c'est une des premières soirées qui a été dédiée spécialement à l'Angola par une organisation qui ne soit pas nécessairement angolaise. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur.
Les bateaux de croisière ont été aperçus au large du Cap Breton, mais aussi dans les fjords du Saguenay au Québec. Les commerçants se réjouissent. Et on rend visite à notre journaliste Pénélope Clermont, qui est au bord de l'eau, en fait en bord de mer, dans le petit village québécois de Tête-à-la-Baleine.
Ça a été un bel accueil, beaucoup de curiosité. Souvent, on me demandait « Aimez-vous ça ici? » C'était important pour eux qu'on apprécie l'expérience et c'est bel et bien le cas. Là. Chaque semaine est une découverte parce que le climat change, le printemps arrive.
Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter à CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Alors, constatant que les femmes demeurent encore peu nombreuses dans l'industrie de la musique de la Nouvelle-Écosse, la Fédération culturelle acadienne de cette province a décidé de lancer un projet afin de favoriser leur inclusion en espérant renverser la vapeur. 5 jeunes femmes ont eu l'opportunité de participer à la première cohorte du programme La création au féminin, qui encourage l'émergence d'artistes féminines. Cet événement a pris la forme d'une résidence d'écriture qui permet aux participantes de bénéficier d'un accompagnement dans la réalisation de leur projet musical. L'auteur, compositrice, interprète Amélie a animé les rencontres tout au long du mois de mars dernier. Michel Deveau et Laura Ray, deux des participantes à cette résidence d'écriture, reconnaissent la difficulté pour les femmes de se faire une place dans un environnement dominé majoritairement par des hommes. Elles sont enseignantes et musiciennes. Elles partagent leur expérience au micro de notre journaliste Sébastien Beltran.
Pour encourager la création féminine, l'association a lancé le projet intitulé « La création au féminin » avec une série d'ateliers, de formations et de discussions à destination d'artistes néo-écossaises. La première initiative s'est déroulée pendant le mois de mars et a permis à 5 jeunes artistes de travailler leur projet sous la direction d'Amélie, une auteure, compositrice et interprète québécoise. Pour nous parler de cette expérience, Laura Rae, l'une des participantes, témoigne.
Alors, ce projet a commencé avec une rencontre en ligne, en virtuel. On est tellement habitués à faire ça maintenant, où on s'est rencontrés en groupe, alors toutes les artistes avec Amélie, juste pour jaser de nos projets, nos souhaits en musique, en écriture, en création. Puis ensuite, on a eu un atelier un à un avec Amélie, encore en virtuel, pour vraiment creuser dans le quoi de nos œuvres, de nos chansons, de nos textes, qu'est-ce qu'on voulait avoir de la fin de semaine ensemble. Puis là, on s'est réunis à Halifax, accompagnés d'Amélie. Puis on a pu travailler nos textes, nos chansons. Moi, personnellement, j'ai travaillé la traduction de chansons que j'avais déjà écrites en anglais, que je voulais traduire en français. Puis Amélie m'a accompagnée dans cette traduction-là. Puis on a pu présenter nos chansons juste en petit groupe parmi nous pour un peu de rétroaction de nos collègues.
Les participantes ont tout en commun l'amour de la musique. Certaines d'entre elles la pratiquent depuis leur plus tendre enfance, même si, aujourd'hui, les contraintes professionnelles les limitent dans la pratique de leur passion. Michèle Deveau, enseignante et participante au projet, explique l'intérêt d'un tel événement.
C'est ça. L'enseignement a juste vraiment m'a empêché de continuer à faire ça. Ça fait que cette fin de semaine-là, création féminin, ça m'a permis de laisser de côté tout ce qui se passait dans ma vie, tout ce qui se passait côté enseignement, puis j'ai vraiment pu me laisser concentrer sur ma musique, concentrer sur une chanson au moins.
Le dernier week-end du mois de mars, les jeunes artistes se sont retrouvés à Halifax pour échanger et bénéficier de conseils bienveillants d'Amélie. Ce programme réservé et animé par des femmes a pour vocation d'encourager et de stimuler la création féminine dans la province. Il est proposé à l'initiative de la Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse, qui a fait le constat que la province éprouve des difficultés à faire éclore de nouveaux talents féminins alors que la ressource ne manque pas. Michel et Laura nous partagent leur point de vue à ce sujet.
T'sais, moi, j'ai l'impression, lorsqu'un groupe de musique se fait, c'est souvent qu'il y a... Puis ça, j'ai pas d'explication pour ça, mais c'est souvent qu'on voit qu'il y a seulement la place pour une femme dans un groupe de musique. T'sais, c'est soit la chanteuse principale ou... C'est souvent la chanteuse principale, puis là, les musiciens sont des hommes. Puis, t'sais, c'est rare que tu vois la joueuse de basse ou de batterie qui est une femme, puis le reste, c'est des hommes. C'est souvent... Le rôle principal du groupe, c'est une femme, puis les autres, c'est des hommes, ou il n'y a pas de femme du tout?
Ben, je pense que vu qu'il n'y en a pas, on ne se voit pas, puis c'est aussi simple que ça. On ne se voit pas, on ne pense pas que c'est possible. Je pense que la communauté francophone ici est beaucoup plus dispersée. Si on veut aller présenter ou faire des spectacles, il n'y a peut-être pas un grand public qui va venir nous voir, puis ça ne vaut peut-être pas la peine, ou on n'est pas donné la chance de faire mon spectacle peut-être. Je sais pas.
L'initiative de la Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse permet une synergie des jeunes talents. Cet événement est le bienvenu dans une province qui souhaite rattraper un retard en matière d'opportunités artistiques offertes aux femmes. C'est le point de départ d'une nouvelle dynamique encourageant la création.
L'atelier nous a amenés ensemble, puis je pense que moi, je suis en train d'apprendre à faire des réalisations, puis à faire la production musicale, puis je pense que juste d'avoir la chance de se réunir parmi juste les femmes va surtout certainement nous aider à émerger, puis à vouloir enregistrer nos chansons, de se mettre ensemble peut-être, faire des collaborations, de jouer sur les chansons des autres.
La résidence d'écriture était la première d'une série d'initiatives encourageant et stimulant la création parmi les femmes acadiennes qui œuvrent dans le milieu des arts. D'autres événements suivront dans les prochaines semaines. La Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse encourage les artistes à se rendre sur son site web, fecan.ca, pour suivre l'actualité culturelle et artistique de la province et participer aux différents événements.
Souligner en avril dernier les richesses culturelles de la communauté angolaise d'Edmonton en Alberta par le biais de l'événement Pangea. C'est une initiative lancée par l'association Franco-Musique, Musique avec un K, Franco-Musique Alberta, qui se fait un devoir de révéler à chaque mois la diversité culturelle albertaine. L'événement Pangea permet de découvrir la musique, la gastronomie et les danses d'une communauté culturelle de la province. Eh bien, tout a commencé, bien sûr, par un buffet de nourriture angolaise traditionnelle. Des artistes ont pris la scène, dont l'orchestre Mélafrique, DJ Meps et des danseurs aussi. Pangea, qui recevait aussi de la grande visite lors de cet événement, celle de l'ancien gardien de but de soccer de la formation angolaise, qui avait d'ailleurs participé à la Coupe du monde de soccer en 2006. Il s'appelle La Luis Maimona Rao, surnommé Lama. Alors, Franco-Musique Alberta travaille, écrivent les organisateurs, à créer des ponts entre les communautés d'origine africaine et les communautés francophones canadiennes qui n'ont que très peu d'occasions de se rencontrer et ne se connaissent, pour ainsi dire, pas vraiment. Alors, José Harry Kanga, cofondateur et claviériste de l'orchestre Mélafrique, mais aussi ingénieur de formation, était l'un des invités de Pangea. Il s'entretient avec notre journaliste Vincent Savard à Edmonton.
Puis je suis arrivé à Edmonton il y a environ 10 ans de cela. J'ai gagné une bourse d'études de mon pays, l'Angola, pour venir étudier l'ingénierie de mines à l'Université de l'Alberta. Et depuis là, dès que j'ai fini ma formation, en ce moment, je suis propriétaire d'un studio d'enregistrement de musique et je travaille aussi à Radio-Canada.
J'ai mentionné que vous faites partie de l'orchestre Mélafrique. Vous êtes également le cofondateur du groupe ainsi que le claviériste. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la musique?
Bon, j'ai toujours été autour de la musique. Ma mère et mon père, ils faisaient tous les deux partie d'un groupe de musique à la chorale de l'église. Et juste de façon associative, j'ai dû faire partie de ce groupe-là. Et une fois que je suis venu à Edmonton, je sentais qu'il y avait un petit manque de ce sentiment-là que j'avais quand j'étais au pays, qui était de m'entourer de gens qui faisaient la musique. Et avec deux amis que j'ai rencontrés à l'université, qui sont Lechan Massiconte, notre bassiste, et Riwo, qui est la vocaliste principale, nous avons décidé de créer ce groupe Mélafrique juste pour essayer de jouer quelques classiques africains et d'avoir ce même sentiment parce qu'ils ont un background aussi similaire au mien.
Quel type de musique faites-vous?
On classifie notre musique comme afro-fusion, je dirais. On cherche à prendre des classiques, par exemple, des classiques de musique populaire américaine ou de la musique populaire africaine, mais on essaie de les donner un petit twist de ce qui est notre expérience personnelle en tant qu'étudiant ou ressortissant d'Afrique en Amérique du Nord.
Et comment vous trouvez ça, le fait d'être représenté, de voir votre culture représentée pour cette soirée Pangea?
Oh, j'étais tellement épaté parce que je dirais que c'est une des premières soirées qui a été dédiée spécialement à l'Angola par une organisation qui ne soit pas nécessairement angolaise. Et ça m'a vraiment fait choquer parce que ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas rentré au pays. Et juste d'avoir cette représentation-là en Alberta, ça m'a énormément fait choquer.
Monsieur Kanga, l'Angola est un pays où l'on parle le portugais. C'est la langue officielle du pays. Alors, comment les communautés francophones sont représentées là-bas et quel espace qu'elles occupent dans le pays?
Oui, ça c'est une très bonne question et je suis très, très ravi que tu me l'aies posée. L'Angola, c'est un pays originairement lusophone, donc on parle portugais, mais la région nord de l'Angola, qui regroupe un groupe de trois ou quatre provinces, sont très reliées à la culture francophone du fait que l'histoire de l'Angola en elle-même, avant que l'Afrique soit séparée telle que l'est, elle faisait partie du Royaume Congo. Et le Royaume Congo englobait quelques parties de l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa ou la RDC, le Gabon et quelques parties du Cameroun. Donc, du contexte historique, ces parties-là ont toujours été très reliées. Et culturellement, ça n'a pas changé jusqu'à présent. Donc, il y a toujours des conférences qui se font autour du Royaume Congo et ça englobe toutes ces parties-là. Du coup, il n'y a pas moyen qu'on sépare la francophonie de cette région de l'Afrique-là.
C'était José Harry Kanga de l'Orchestre Mélafrique. Merci beaucoup, M. Kanga.
Merci beaucoup.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Alors que les mesures sanitaires sont peu à peu levées un peu partout au Canada, on assiste depuis peu au retour des navires de croisière. Le Cap-Breton en Nouvelle-Écosse a vu en avril dernier le Viking Octantis accosté à Louisbourg, son tout premier navire en 2 ans, imaginez. Le secteur du tourisme affamé de croisiéristes ne tient plus en place. Depuis, on sait que le secteur du tourisme du Cap-Breton a été frappé de plein fouet par la pandémie et le retour des navires de croisière offrira un soutien des plus appréciables au secteur et à l'économie du Cap-Breton. Souvenons-nous que l'industrie des croisières injectait avant la pandémie un peu moins de 60 millions de dollars dans l'économie du Cap-Breton, nous rapporte notre journaliste Daniel Aucoin qui est posté là-bas. Marlène Hocheux, la PDG du port de Sydney, confirme que 83 bateaux de croisière jetteront l'ancre cette année au Cap-Breton, avec à leur bord plus de 180 000 passagers, imaginez. Le port de Sydney, qui dépend lui aussi fortement de l'industrie des croisières, Madame Hocheux affirme que les croisiéristes ont travaillé fort pour répondre aux exigences sanitaires en place au Canada et pour assurer la sécurité des passagers, des équipages et des communautés qu'ils visitent. Avant la COVID, le Cap-Breton connaissait d'excellentes saisons touristiques. Ces bords de mer nous inspirent et on reste au bord de l'eau pour se rendre en Basse-Côte-Nord où nous attend notre nouvelle recrue et journaliste Pénélope Clermont.
Pénélope, quel plaisir de te recevoir à l'émission, autrement que par tes reportages.
Oui, ça me fait bien plaisir d'être avec vous également.
Écoute, c'est pas rien. Qu'est-ce qui pousse une femme comme toi à t'exiler dans ce petit village?
En fait, c'est le goût de l'aventure. Réponse très simple pour répondre à ta question, Boris. J'avais donné ma démission en septembre dernier pour partir à l'aventure avec ma conjointe en campeur, donc dans l'est du pays, dans les Maritimes, Nouveau-Brunswick et bien sûr Terre-Neuve. Donc, on était là pendant 2 mois. Et puis après ça, on s'était donné 1 année d'exploration, d'aventure et on voit ce qui se passe. On s'est dit, bon, on va peut-être s'établir à Terre-Neuve pour travailler ou peut-être carrément ailleurs au Canada. Et puis, dans le temps des fêtes, on savait pas trop, là, Terre-Neuve, la température était moins bonne. Puis là, je dis ça, puis finalement, je me suis retrouvée en Basse-Côte, fait que c'est à peu près la même chose. Et puis, le hasard, j'ai vu l'offre d'emploi à Tête à la Baleine. Ça me permettait de faire le métier que je connaissais, donc journaliste. Et surtout, ça me permettait de faire de la radio. Donc, moi, je n'avais pas d'expérience dans ce domaine-là. Donc, ça me permettait d'explorer autre chose. Et surtout, ça répondait à notre envie de poursuivre l'aventure parce qu'on se déplace moins. On reste, comme tu l'as dit, dans un minuscule village. Mais,
oui, 150 personnes, je pense.
Oh, même pas, t'es généreux. Même pas. Selon le dernier recensement, parce que j'en ai bien sûr fait un sujet pour la radio ici, on serait 119 habitants, donc plus ou moins, là, parce qu'il y a des gens qui y habitent à moitié de l'année, en fait.
Alors, dis-moi, maintenant que tu as un peu de recul, ça fait quelques mois que tu es là, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu as été reçue dans ce village-là?
J'ai très bien été reçue. Je pense que c'est connu, les gens qui sont venus en Basse-Côte savent, et j'avais lu déjà qu'à Tête à la Baleine, les gens étaient particulièrement accueillants. Je dois dire que c'est le cas. D'emblée, on a été pris sous l'aile là, de quelques-uns des habitants, dont un couple ici qui s'occupait de gérer... Moi, j'habite dans le logement de la paroisse, en fait. Donc, je le loue là, mensuellement. Donc, eux s'occupaient de... Ils nous ont tout mis ça, là, tout équipé, un bel accueil à ce niveau-là. J'ai bien sûr la directrice de la station ici qui est venue m'accueillir avec son conjoint à 4 heures du matin. Alors, on est arrivé, on est sorti du bateau. Puis après ça, au village, les gens s'intéressent. « Ah, c'est toi à la radio! » Parce que la radio est très populaire ici. C'est une source d'information, surtout une source de musique aussi pour les gens. Donc, ils n'écoutent pas les radios là, des grands centres urbains du Québec.
Oui.
Donc, ça a été un bel accueil, beaucoup de curiosité. Souvent, on me demandait « Aimez-vous ça ici? » C'était important pour eux qu'on apprécie l'expérience et c'est bel et bien le cas. Là. Chaque semaine est une découverte parce que le climat change, le printemps arrive, donc c'est... C'est vraiment beau. Et que dire du paysage, l'espèce de vastitude ici. Bien,
évidemment.
Pour une fille qui vient de la banlieue de Montréal, là, c'est un tout autre décor, là, vraiment.
Oui, c'est le bord de mer.
Oui, 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 tout à fait. Puis c'est aussi la toundra. Hein. Ici, c'est le forêt boréale. On n'est pas habitué à ça. Donc, beaucoup, beaucoup de conifères, quelques bouleaux, beaucoup de mornes. Ça fait beaucoup penser à Terre-Neuve, en fait, pour être bien honnête. Là. Okay. Des montagnes moins imposantes que sur la côte ouest de Terre-Neuve. Donc, on n'est pas dans le parc du Gros Morne, bien sûr, mais des petits mornes, là, c'est comme ça qu'on les appelle ici, à peine couverts de végétation. Là. Donc, les points de vue sont magnifique un peu partout. Là.
On ne s'ennuie pas?
Non, non. C'est sûr qu'il ne faut pas être ennuyeux parce qu'il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de magasin. Il y a un magasin général qui est notre épicerie. Oui. Puis, il y a une école, une église.
Tout est au nombre de un.
Oui, pas mal. Il y a seulement les élèves qui sont au nombre de trois.
D'accord. D'accord. Donc là, tu travailles pour une radio qui s'appelle CJTB, qui diffuse évidemment pour le village, mais qui va bien au-delà du village, j'en suis certain. D'autres communautés comptent aussi sur cette radio-là pour les informer.
Oui, oui, particulièrement le contexte aussi de la langue. En fait, Tête à la Baleine est l'une des trois communautés francophones de la Basse-Côte-Nord. Donc, sinon, le territoire est occupé par des anglophones et des Innus, bien sûr. Mm-hmm. Donc, à Tête à la Baleine, on est diffusé sur... via la radio. Donc, les gens peuvent ouvrir la radio et nous écouter. Mais on est aussi sur le web. Mais la couverture journalistique que moi, je fais, c'est bien sûr concentré sur Tête à la Baleine, mais également la Basse-Côte-Nord également. Donc, ça permet aussi d'offrir une source d'information francophone aux autres francophones de la Basse-Côte. C'est un beau défi aussi de couvrir un si vaste territoire pour moi qui ne viens pas d'ici. Donc, beaucoup d'apprentissage aussi là, sur les dynamiques, comment la municipalité fonctionne. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'en milieu urbain. Là.
C'est ça que j'allais te demander. Comment est-ce que c'est de faire du journalisme comme ça dans un village de 120 habitants? Est-ce qu'on réussit à avoir la distance nécessaire pour travailler?
C'est difficile. Ça se passe bien, c'est agréable, on est très près de la nouvelle. Ça fait qu'on est informé très, très rapidement de ce qui se passe. Moi, j'avais une inquiétude au départ de n'avoir rien à apprendre aux gens. En me disant, ils vont déjà tout savoir ce que j'aurai à leur dire en ondes. Mm-hmm. Par contre, ce que moi, je considère être un avantage, c'est que je sais rapidement ce qui se passe sur le terrain. Et ensuite, mon travail, c'est d'aller valider auprès des instances pour confirmer ou infirmer les informations qu'on m'apporte et nuancer parfois. Donc, j'ai vraiment les deux côtés de la médaille, si on veut. Ce qui est plus difficile, c'est que les intervenants sont peu nombreux. Oui. C'est souvent les mêmes personnes qui sont dans les différents comités. Hein, on le sait, là, les gens impliqués, ils chapeautent pas seulement un dossier. Donc, c'est sûr que ça devient difficile de pas avoir l'impression d'harceler les intervenants pour toujours me tourner vers les mêmes. En ce qui a trait à la distance, écoutez, moi, je m'en fais pas trop avec ça. J'essaie de garder un œil objectif par rapport à la nouvelle que je donne. Donc, c'est sûr que je valide toujours les faits. Après ça, dans le ton que je prends, je travaille pas pour Radio-Canada non plus. On est à Tête à la Baleine. Si je prends un ton trop sérieux ou radio-canadien, comme si on veut, ça crée une distance que les gens aimeront pas. Je pense que les gens ici, ils aiment avoir accès à la radio, ils aiment s'entendre dans le sens où entendre des gens qui parlent comme eux, qui sont simples comme eux. La réalité est tout autre. Hein. Comme on est éloigné, là, les gens, on ne s'enfarge pas dans les fleurs du tapis, comme on dit.
Oui, c'est ça. En tout cas, il faut être pas mal débrouillarde dans ton cas, assez créative. Puis il faut évidemment sortir du territoire, sortir du village pour faire la nouvelle, pour découvrir autre chose, pour parler de la grande région, mais aussi à la limite de la province et du pays.
J'essaie de pas trop sortir de la Basse-Côte parce que y a d'autres médias qui le couvrent et qui le font ben, pas nécessairement mieux que moi, mais pour qui c'est leur mission de le faire. Par contre, ici, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser aussi, bon, bien sûr, les fameuses revues de presse. Là. Donc, on parle de ce qui se passe à l'extérieur. Moi, mon mandat est vraiment plus local. Hein, l'initiative de journalisme local le dit. Donc, j'aime ça. J'aime beaucoup faire de la micro-nouvelle aussi. Puis je pense que c'est drôle, je parlais à quelqu'un récemment qui me disait « Ah, c'est un beau territoire pour commencer son métier. » En fait, en toute honnêteté, je pense qu'il faut avoir de l'expérience pour travailler en milieu éloigné comme ça, parce que on reçoit pas 10 communiqués de presse par jour là pour nous alimenter. Faut sortir, faut savoir qui appeler, faut le découvrir, parce que bon, la première semaine, je n'avais aucune idée qui était la mairesse, si même il y en avait une, ou le maire, quelque chose comme ça. Faut être débrouillard, puis il faut, en région éloignée, hein, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Je pense que ça résume bien les choses.
Eh bien, Pénélope, c'est toute une expérience. En tout cas, c'est le fun pour nous de t'entendre, d'avoir ce point d'entrée sur ce que tu vis à Tête à la Baleine, au Québec, en Basse-Côte-Nord. C'est vraiment merveilleux. Dis-moi, est-ce que tu tiens le coup? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est un réel plaisir encore à tous les jours?
C'est très, très positif. Je dirais que ce qui m'irrite le plus en ce moment, c'est de marcher dans une neige qui fond et dans laquelle je cale constamment. Donc alors, ça, c'est plus difficile.
Dis-moi, l'été arrive dans les fêtes quand?
C'est dur à dire. On va devoir se reparler, Boris, cet été pour que je te dise où ça en est. Je suis loin de mes amis montréalais qui prennent un verre sur une terrasse au soleil, là, habillé d'un simple gilet.
Eh bien, Pénélope, on va te souhaiter beaucoup de plaisir à Tête à la Baleine, à toi et à ta conjointe, de bien vous amuser, de bien profiter de cette expérience unique. Merci, Pénélope.
Ça fait plaisir. À bientôt.
Voilà, c'est tout pour nous à Point de vue. On vous invite à consulter notre site web où vous pouvez lire et écouter tous les reportages produits par des dizaines de journalistes postés à travers le Canada. Rendez-vous donc sur canada-info.ca, canada-info.ca. Vous le savez, on est aussi branché sur Twitter, @CanadaLJI, @CanadaLJI. Puis écoutez toutes nos émissions sur vos plateformes préférées, mais aussi sur notre site Internet. On remercie nos journalistes Daniel Aucoin, Vincent Savard, Sébastien Beltran et Pénélope Clermont. Leurs invités aussi, bien sûr. Merci aux artistes qui nous offrent leur musique et à notre coordonnateur national, Stéphane Bénard. On vous rappelle que cette émission est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Revenez-nous la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.
@CanadaLJI.